La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Monsieur Anberg,
bienvenue de Riyad, Arabie Saoudite.
Pour la deuxième fois en quelques mois, non, Monsieur Anberg?
Deuxième fois depuis le mois d'octobre, ouais. Puis ça va être trois fois au mois de février.
On se croise les doigts pour le mois de février. Où c'est que Fury?
Oui, on se croise les doigts. D'après les gens à qui j'ai parlé à des gens de la compagnie de promotion de Frank Warren. Et eux autres, ils semblent confiants qu'on va être de retour le mois de février. Puis ça a l'air qu'ils annoncent d'autres combats d'importance pour Riyad aussi. Fait que.
De nouveau Las Vegas, Russ, Riyad.
Hey, c'est vraiment extraordinaire. Je jasais tantôt avec Anthony Decari. Puis les galas de boxe, les combats de boxe qui sont sur cette gala, quasiment chaque un pourrait être un combat final, un show à ce combat lui-même. Tu comprends?
Oui, dans le fond, parce qu'on parle de la carte, là, le Day of Reckoning, qui appelle ça peut-être le jour du jugement. C'est la traduction la plus proche de la traduction exacte par rapport au gala. Donc, c'est quoi? C'est 8 combats et chacun des 8 combats, 7 combats impliquent des poids lourds. Le seul, c'est le champion Dimitri Bivol, des 175 livres, un des champions avec Beterbiev, naturellement, en action face à Lyndon Arthur. Donc, t'as vraiment une carte que oui, tu pourras avoir. Certaines finales sont plus impressionnantes que d'autres si t'es prêt individuellement. Mais du début à la fin, on a rarement vu une carte que les gens vont être autant excités pour le week-end avant Noël.
Écoute, je connais pas tous les combats par cœur, mais Wilder Parker, ça pourrait être un combat, une carte de boxe à elle seule, right?
Oui.
Wilder.
Joshua face à Otto Wallin.
Wallin.
Oui.
Pourrait être seul. Miller face à Dubois.
Dubois. En Angleterre, ça pourrait être une finale.
Absolument. Jay Apatia.
Oui. Comzoro, peut-être en Australie, ça pourrait être une finale.
Quand même champion du monde.
Makhmoudov, Kabayel pour le Montréal ou d'autres endroits pourraient être une finale. Philippe Horovitch. Certains, tu sais, oui. Frank Sanchez Jr. Fosh, je suis pas sûr que c'est une finale vraiment n'importe où. Peut-être à certains endroits aux États-Unis, mais on a vu pire.
Ben oui, on a vu pire, mais voyons donc. Fait que, tu sais, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'ils font ici, là, tu sais. L'argent qui est dépensé pour ce combat, Matt, tu peux pas t'imaginer. Laisse faire les bourses des boxeurs. Mais juste tout qu'est-ce qui l'entoure. Il y a quelqu'un qui a dit à Anthony Decari aujourd'hui, il a dit, juste l'écran qu'il y avait au site de l'entraînement vaut plus que le show d'un promoteur au complet.
Et voilà qu'on, ça va être la troisième fois, mais tu sais, la deuxième, vraiment, on est parti avec Fury Ngannou, là, on arrive avec la saison complète, si on veut, pour les prochains événements, et on a vu il y a quelques mois, tu sais, à quel point ils sont prêts à mettre toutes les ressources pour vraiment faire un show, le wow factor. Et on parle d'un montant d'argent, tu sais, vraiment, tu peux pas compétitionner. Le reste du monde ne peut pas compétitionner avec l'argent qui est disponible pour ce genre d'événement. Mais avant qu'on s'avance trop vite, Russ, on veut saluer nos écouteurs, nos téléspectateurs, pour ceux qui nous écoutent sur le balado de dernier round sur Cube, ou que ce soit le tvasport.ca, Spotify. Et merci également aux gens, on vous rappelle, vous pouvez nous communiquer le dernier round box à commercial@gmail.com, le dernier round box avec un E, et on va répondre à une question plus tard au balado. On a eu quelques-unes, mais j'en ai une que j'ai ciblée, Russ, pour toi, de Stéphane, un peu plus tard au balado, parce que c'est notre
ça
dernier de l'année.
Une surprise, une question piège.
Non, pas une question piège, mais une question que tu n'as pas encore eue. Et quand on regarde l'horaire du balado, c'est le dernier de 2023, on est à une journée environ de la pesée. Par rapport au décalage horaire, Russ, il est très tard pour toi. Fin de journée ici à Montréal. Donc, demain, c'est la pesée pour des poids lourds.
Il est minuit et demi, en fait, maintenant.
Exact. Et quand on regarde ça, le balado sera dernière édition de 2023. On a une pause la semaine prochaine et on sera de retour pour la première semaine du mois de janvier. Donc, Russ, quand on regarde à quelques heures la pesée, quand tu as 7 des 8 combats qui est des poids lourds, bonne nouvelle, personne ne sera trop nerveux. Donc,
exact.
Mais t'es là sur place, encore une fois, pour Aslembek Makhmoudov, le lion. Oui. Donc, on va commencer avec Makhmoudov et on pourra parler du reste de la carte et surtout Wilder Joshua un peu plus tard. Mais quand on regarde Makhmoudov contre Agit Kabayel, Kabayel, c'est pas un nom que tout le monde au Québec connaît. Mais les gens qui connaissent, qui suivent le monde de la boxe peut-être un peu plus régulièrement, est au courant que c'est pas le défi le plus important de la carrière de Makhmoudov, même encore meilleur que Carlos Takam, parce que Takam était déjà un peu plus en fin de carrière lorsqu'il a affronté Makhmoudov à Montréal. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport au camp quand tu es avec Samuel Descaries et le reste de l'équipe d'Eye of the Tiger? C'est quoi vos attentes par rapport à Makhmoudov Kabayel?
Ben écoute, encore une autre fois, il y avait deux conférences de presse aujourd'hui. Il y avait une conférence de presse qui était réservée pour Bivol, Wilder, Joshua, oui. Puis Miller. Puis il y avait le note, disons, le sous-carte, comme qu'on dit. Puis encore une fois, Makhmoudov, il a volé le spectacle. Juste par qu'est-ce qu'il a dit, ses paroles. Il était vraiment drôle, puis sérieux. Il a avoué, les deux sont avoués, Kabayel aussi, il a avoué que c'est le combat le plus important de leur carrière, le plus dangereux de leur carrière. Puis le maître de cérémonie, il a dit à Makhmoudov, Makhmoudov, vous m'avez dit dans une entrevue que n'importe quel poids lourd qui rentre dans une chambre avec toi, il sortira pas, c'est toi qui sortais. Il a dit, oui, mais quand on va être dans la chambre, ce sera pas juste la boxe. mais c'est moi qui va sortir. En tout cas, il était très drôle. La livraison de son joke, oui. il était bien drôle. Puis encore, il a salué le monde en arabe. Il était vraiment.
Mais c'est un des favoris de l'endroit. C'est le seul. À moins que je me trompe, mais je pense que c'est le seul qui est deux fois sur les cartes Riyad, là. Parce que celui de Fury Ngannou, si on regarde tout, Parker, Joseph Parker également, c'est vrai, qui avait affronté Simon King. Mais c'est Makhmoudov et Tyra Sandberg, exactement. Ouais. Mais Makhmoudov a le potentiel de devenir une grande vedette dans ce coin du monde. Et peut-être, des fois, je me demande, on va-tu le revoir à Montréal dorénavant?
Écoute, ça, c'est quelque chose que, à un moment donné, un boxeur comme Makhmoudov, puis comme qu'on souhaite pour tous nos boxeurs québécois, qui deviennent plus gros que notre marché peut supporter. Il n'y a pas de moyenne de payer un Makhmoudov pour boxer à Montréal au casino, là. Tu sais, il est rendu.
C'est les adversaires qu'on n'est plus capable d'aller chercher.
En plus. Ouais. Donc, c'est important qu'il fait partie de ces genres de choses. C'est normal. C'est tout à fait normal que ça arrive et, on souhaite pour tous les boxeurs qu'ils peuvent faire partie de l'élite mondiale et internationale. Il y a certains boxeurs que quand tu arrives à une certaine époque, comme Jean Pascal, au moment où lui était champion des Milos, les autres champions des Milos, les gars comme Bernard Hopkins, eux, il y avait pas de home base, là. Il y avait pas, fait qu'ils étaient contents de venir à Montréal. Mais de temps en temps, t'es obligé de sortir. Ça, c'est le cas maintenant pour Makhmoudov.
Mais tu sais, je ne veux pas m'avancer trop loin parce que la division des poids lourds, c'est quand même une division qui vend beaucoup. Que Makhmoudov, si son nom commence à devenir un peu plus international, possibilité, je pense, de le revoir dans un gala à Montréal ou dans la ville de Québec qui pourrait intéresser beaucoup de gens puis vendre des billets comme qu'on pouvait vendre à l'époque. Mais ça va prendre un adversaire et une histoire qui va aller chercher le commun des mortels de partisans de sport et pas juste le fanbase de boxe. Et quand c'est un Agit Kabayel, pour le niveau de talent que Makhmoudov affronte, oui, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir ce combat à Riyad qu'à Montréal pour la vente de billets ou même tout simplement l'argent disponible. Mais Kabayel, pour revenir au combat, Russ, il y a une raison pourquoi que Makhmoudov est favori. Mais Kabayel est invaincu, il n'a jamais vraiment montré de signe de défensivement, tu sais, dans le fond, de faiblesse comme d'autres adversaires de Makhmoudov ont eu par le passé. Donc là, la question devient, plus que le combat avance, c'est ça qu'on veut savoir de Makhmoudov. Tout était impressionné à son dernier combat, Makhmoudov, par sa technique, même s'il affrontait un adversaire en junior weight qui était vraiment pas de calibre comparé à Makhmoudov. Kabayel, c'est pas ça la question vraiment qu'on va savoir. Est-ce que, s'il est en mesure de rester les quatre premiers rounds, peut-il causer du trouble? Parce que Makhmoudov, plus que le combat avance contre Takam, ça va être un peu plus difficile.
Sûrement. Mais comme je pense que la même analyse tu pourrais faire pour Parker et Wilder, Parker va gagner le combat facile s'il évite la main droite de Wilder. Mais ça, c'est un big si il évite. Tu comprends? C'est
ouais, mais Kamel a déjà mangé des mains droites de d'autres boxeurs. Tu penses que la main droite de Makhmoudov est parmi les meilleurs de la division?
Je pense que les deux mains de Makhmoudov est parmi les meilleurs de la division. Les deux mains.
Donc, c'est pas juste une place. Des fois, on voit des poids lourds ou surtout d'autres boxeurs à d'autres poids enregistrer plein de knockouts quand un certain niveau d'adversaire.
D'accord.
Mais là, quand tu arrives au prochain niveau, Takam n'a pas tombé contre Makhmoudov. C'est le meilleur adversaire de la carrière de Makhmoudov sur papier de loin.
Oui, puis un Makhmoudov avec pas beaucoup d'expérience, faire face à un gars de beaucoup d'expérience en Takam. Puis je pense que Kabayel, je pense que celui-ci, point de vue d'expérience, les deux sont pas mal égales. Tu sais, c'est deux jeunes qui montent.
Kabayel a eu quand même plus de combats de 12 rounds en termes d'expérience. Le 4e Rudenko, Kevin Johnson, Lazaridis. C'est 10 ou 12 rounds à plusieurs reprises. Derek Chisora.
Puis fais-tu la limite avec Chisora sûrement?
Oui. Oui, Kabayel, c'est pas quelqu'un qui est connu pour sa force de frappe chez les poids lourds. Connu pour pouvoir boxer sur 12 rounds. Donc c'est là que je trouve que c'est intéressant. Parce que oui, effectivement, si tu penses que Makhmoudov a la meilleure puissance ou parmi les meilleures puissances de la division, ça va être une longue soirée probablement pour Kabayel, mais si Makhmoudov il tombe avec ses lacunes techniques comme on a vu face à Takam, Kabayel peut gagner ce combat.
Écoute, j'ai fait beaucoup d'entrevues ici, puis j'ai jasé avec beaucoup de monde. On dirait qu'on est en Angleterre ici, parce que tout le média britannique est ici.
C'est pour ça que Joshua est la tête d'affiche en passant, et non Wilder.
Oui. Puis tout le monde aime Makhmoudov, puis ils m'ont demandé c'est quoi ses qualités.
Oui.
OK, à part de le fait qu'il est physiquement imposant sur n'importe qui avec qui est dans le ring, le fait qu'il cogne très dur, puis vraiment solide, là, puis il va te frapper n'importe où, il a démontré qu'il est capable de faire des rondes. Mais je pense que son meilleure qualité, c'est que, je sais pas comment le dire, sans me sacrer un peu, il s'en calisse qui est en avant de lui. Et pour lui, ça fait rien. Il croit qu'il peut démolir n'importe qui est en avant de lui. Il y a une
attitude
là, de destroy, là. Tu sais, il croit en lui-même. Ça va prendre un boxeur tellement puissant et talentueux pour le décourager. Et ça va prendre ronde après ronde de le décourager et de le battre, là, tu sais, de lui donner des coups sans arrêt pendant des rondes avant, tu vois, le décourager. Et ça, je pense que c'est une de ses plus gros qualités.
Bon, donc en tout cas, j'ai hâte de voir parce que après, tu sais, advenant une victoire de Makhmoudov contre Kakabayel, t'arrives dans les ligues majeures, là. Il n'y a pas de recul par rapport aux qualités d'adversaire. Et les poids lourds en ce moment, c'est vraiment une division excitante. Il y a beaucoup de profondeur. Et là, si on commence à avoir les meilleurs affronter les meilleurs, commençant par Usyk Fury, et ainsi de Joshua Wilder, commence à créer un buzz. Qui peut ramener la boxe en termes de notoriété, aller chercher un public différent que le public qui écoute à toutes les semaines.
Moi, il y a juste une chose qui me dérange avec toute cette carte-là, c'est qu'ils commencent déjà à parler de Wilder contre Joshua.
Oui, tout le monde en parle que le deal est signé, ça serait au mois de mars, et qu'il y aurait une entente pour deux combats.
T'sais, premièrement, j'ai de la difficulté à croire que si les gars font certaines rondes dans le combat. Tu sais, OK, les deux gagnent par knockout vite, je vais être très, très surpris qu'ils vont être de retour dans le ring au mois de mars. Ils vont finir ici. Si au moins ils font le minimum d'une canne d'entraînement de 8 semaines, t'arriveras pas, au moins que ce soit en fin mois de mars. Je sais pas. Mais j'aime pas le fait qu'ils jasent déjà de ce combat-là parce que on dirait que les juges sont dans une position de pression de faire ce combat-là, tu sais, puis il jugera pas avec une certaine impartialité.
Intéressant. Donc, tu penses que des fois, ça peut... Mais tu sais, ça, c'est souvent été pour le monde de la boxe. Quand les juges entendent parler de les gros noms avec le potentiel puis l'argent qui est en jeu, oh, ça, tu sais, le hometown fighter est favorisé. Là, dans ce cas-ci, c'est pour Riyad, mais les juges sont quand même internationaux, neutres, là. Ils sont pas supposés d'avoir un parti pris par rapport, OK, Wilder, je vais le favoriser, ou Joshua contre Wallin.
Le fait que ça soit à Riyad ne veut rien dire. C'est une promotion britannique.
Ouais.
Fait que c'est comme si ce sera en Grande-Bretagne. Donc, toutes les moving parts autour du combat, c'est britannique.
Okay.
OK. Le full, oui, c'est pas des Britanniques, d'accord, mais eux, c'est pas eux qui remplissent les feuilles de pointage. Donc, ils vont crier, whatever, mais tout qu'est-ce qui est alentour, tout le contrôle, les superviseurs, les juges, les arbitres, c'est tout contrôlé par Grande-Bretagne, même si on est en Riyad.
Intéressant. Donc, surtout Joshua Otto Wallin, c'est le combat qui a plus de chances d'aller en décision que Wilder Parker. Donc, c'est celui-là qui a peut-être que, si c'est serré, on va-tu tenter de vraiment, on va récompenser Wallin? Je peux comprendre la pensée. J'espère qu'on va rester neutre parce que moi, je pense que c'est le combat que beaucoup de gens sont nerveux que si tu veux voir un Joshua Wilder qui est dans les rumeurs depuis des années, mais là, finalement, se concrétise, c'est Otto Wallin qui a plus de chances de battre Anthony Joshua par rapport aux performances qu'on a vues de Joshua des dernières années, comparativement à Wilder Parker. Moi, je pense que Parker a également une chance de créer le upset, si on veut, la surprise face à Wilder. Mais, pour comprendre en termes de style, Wallin, ça a plus de chances que Parker.
J'ai de la difficulté à croire. Parker, il est bon. Il est talentueux. Mais Wilder, il a encore sa vitesse. Il a encore sa vitesse, puis il a encore sa force de frappe. À un moment donné, ça va finir par tuer. Même si, admettons qu'il n'est pas aussi habile qu'il était avant. Cette main droite sort vite, puis il est vicieux, Wilder. T'sais, il va trouver moyen pour toucher à ça. Je pense que Wilder devrait être favori largement dans ce combat-là. Ça ne veut pas dire que Parker peut pas gagner, mais le fait qu'il se fait arrêter par Joe Joyce, ça m'inquiète beaucoup. S'il était capable de se faire toucher par Joe Joyce, il va trouver ça dur face à Wilder.
Ouais, mais Parker, une chose que j'aime, c'est Russ, depuis cette défaite, c'est 3 victoires consécutives, et c'est son 4e combat de 2023 contre Wilder. Wilder s'est rendu un combat en 2022, un combat 2021, un combat 2020, et là, son seul combat en 2023. Donc, je veux bien qu'il y a 2 façons de regarder la chose, qui est plus frais. Ah, tu sais, se fait pogner moins souvent par des coups, OK. Mais il y a aussi de la rouille, peut-être, parce qu'à moins que tu penses que c'est juste en sparring, ça peut se régler avec un qualité de camp d'entraînement. Écoute, s'il y a un facteur rouille, c'est Parker qui va avoir l'avantage à 4e combat disputé de l'année.
Je peux pas t'argumenter là-dessus. Sauf le coup de poing est dangereux. Là, par contre, si on regarde Joshua Wallin, Wallin, c'est un adversaire vraiment négligé, underrated. Là. T'sais, on lui donne pas son valeur.
C'est juste de valeur?
Juste de valeur. Very good. Merci beaucoup. Je pense peut-être que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je suis pas sûr. Ça va dépendre comment il a fait dans le camp d'entraînement. Mais est-ce que Joshua a accepté d'affronter Wallin? Parce que Wallin, il était gaucher. Puis là, il avait préparé déjà pour Usyk à 2 reprises de se battre contre un gaucher. Donc, c'est pas étrange pour lui. Intéressant à voir. Puis ça peut aussi... Je me demande, admettons qu'il offre une performance extraordinaire puis il arrête Wallin 4, 5, 6 rondes, OK? Là, peut-être les plans vont changer. Ça va dépendre de ce qui arrive avec Fury. Mais ça peut ouvrir les portes pour un combat Fury contre Joshua en Angleterre. Même si Fury perd contre Usyk, je pense qu'il va perdre. Mais ça, c'est parti pris. T'sais, ils vont dire, hey, ce gars-là, c'est le seul gars qui a, à part Wilder, qui a passé proche puis a donné le combat le plus difficile à Fury. Est-ce qu'il peut faire la même chose? Est-ce que Joshua peut faire mieux que Fury a fait? Ça, c'est un combat intéressant. Mais comme Frank Warren, il a dit aux conférences de presse aujourd'hui, il y a 8 combats à 4, c'est sûr qu'il va avoir des surprises.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Hey, écoute, c'est intéressant. Puis Otto Wallin, par rapport au commentaire que Frank Warren est confiant qu'il va avoir des surprises, on ne sait jamais. Mais quand on regarde Otto Wallin, il n'arrive pas avec la mentalité. Tout ce qu'il dit cette semaine n'est pas la mentalité d'un adversaire, mais vraiment quelqu'un que lui croit en ses chances. Mais tu sais, il y a des boxeurs par le passé que, je suis d'accord, les gens qui m'écoutent, faut pas se fier à des paroles. Mais c'est plus aussi de la façon, le comportement. Otto Wallin a été très confiant à essayer de peut-être jouer un peu dans la tête de Joshua, avait créé des complications pour Tyson Fury. Et là, quand on regarde les preneurs au livre, parce que tu en as parlé, Russ, de les surprises potentielles. Pour samedi, selon les preneurs au livre britanniques, Wallin est négligé à 4 pour 1 face à Joshua. Parker, 5 pour 1 contre Wilder.
Moi, je trouve ça 4 pour 1 vraiment gros pour un gars qui a donné le meilleur combat à Tyson Fury. Si tu m'avais dit 2-1, OK, parfait. Mais 4-1, c'est comme il est même pas dans le combat. Ça serait une gageure à prendre, ça. Va mettre une pièce là-dessus.
Il y en a des pas mal gros négligés par rapport au reste de la carte. Mais quand on regarde Parker, seulement 5 pour 1 négligé contre Wilder. Donc, les preneurs au lit britannique considèrent Wallin et Parker d'avoir la même chance de gagner. Mais toi, tu as l'air beaucoup plus confiant que Wallin aurait une chance de gagner que Joseph Parker dans son combat respectif. Et je sais pas si on suit à Wallin. Dernière victoire, dernier combat, puis sa victoire, c'est une décision partagée face à Gassiev, Murad Gassiev, qui pesait 216 livres. Donc, peut-être qu'on dit que Joshua va juste être trop gros pour Wallin, qui Wallin a eu une victoire, mais une victoire difficile face à Gassiev en septembre.
Oui, mais okay. Gassiev, il est un boxeur talentueux, puis Fury pesait pas 216 livres.
Fury pesait, au moment du combat, 254 livres en 2019 face à Otto Wallin.
Donc, tu sais, je pense pas que ça va être un problème. Le problème va être si Joshua peut laisser aller ses mains, s'il a l'air actif, s'il a l'air vivant, comme qu'il était vivant contre Klitschko, tu sais.
Ça fait un bout de ça.
Parce
qu'après les deux défaites contre Usyk, c'est une victoire par décision face à Jermaine Franklin au mois d'avril dernier, et au mois d'août contre Hellenius, un remplaçant de dernière minute, une victoire par knockout au septième round. Mais les deux combats, ça sortait pas beaucoup, le Joshua. C'était craintif comme style.
Oui. Puis changer, je pense qu'avec ça, tu sais, ça va être deux entraîneurs différents dans trois combats.
Oui, effectivement.
Si tu veux, tu peux dire cinq entraîneurs à ces cinq derniers combats.
Cinq entraîneurs, c'est cinq
sur
combats?
Il y avait Rob McCracken, le premier combat contre Usyk.
Le deuxième, Robert Garcia.
Garcia, le deuxième.
Ouais.
Après ça, il a fait deux combats avec Derek James, puis maintenant il est rendu avec
Ben Davidson.
C'est cinq entraîneurs.
Ben Davidson, tu l'aimes comme entraîneur, Russ?
Écoute, je l'ai croisé ici, on a jasé un peu si je l'aime comme entraîneur. Pas sûr. Il y a eu certains résultats, puis il y a eu certains échecs. Donc,
habituellement, c'est pas mal le cas de la carrière d'un entraîneur, non? Certains résultats, certains échecs. Je connais pas personne. Ça, c'est comme ton analyse de faut éviter la main droite, là.
Oui, peut-être. Mais quand je dis ça, ça veut dire est-ce qu'il y a eu plus de succès qu'il y a eu des échecs? Je sais pas. The jury is out.
Mais en tout cas, Otto Wallin a dit Ben Davidson était dans le coin de Tyson Fury à l'époque lorsqu'il y a eu leur combat et Tyson Fury avait congédié Ben Davidson après cette victoire face à Wallin. Donc, Otto Wallin a dit peut-être que Ben Davidson va se faire congédier une deuxième fois après ce week-end.
C'est la seule chose qui me concerne avec Joshua. C'est quoi le input? Comment que les entraîneurs sont capables d'aller chercher en dedans de lui le meilleur? C'est cinq entraîneurs, puis quand tu parles...
Quatre entraîneurs en cinq combats.
McCracken, Garcia. Ah oh oui, c'est vrai, deux fois Derrick James. C'est ça, deux fois Derrick.
Quatre entraîneurs en cinq combats. Mais c'est quand même beaucoup de monde en peu de temps. Et je pense que Joshua, oui, c'est rendu comme une... C'est un superstar. Qu'est-ce qui arrive avec ces gars-là? T'es là pour juste faire... C'est plus toi qui se fait dire en tant qu'entraîneur quoi faire par le boxeur. Le boxeur est plus ouvert à se faire dire par l'entraîneur c'est même que le camp va aller, sinon tu ne serais pas ton coach. Là. C'est plus de même que ça
premier,
marche. Là.
C'est la première fois que j'ai entendu Joshua dire que il a appris des choses de Ben Davidson.
Ah oui, hein?
Ouais, il a dit, he's a good coach, j'ai appris des choses que tu vas voir. OK, on va voir. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que peu importe comment t'es bon, il reste une certaine période d'adaptation que tu as besoin avec ton entraîneur, puis oui, une certaine confiance. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Puis pourtant, Joshua, il y avait des bons entraîneurs. Robert McCracken, c'est un bon entraîneur. Robert Garcia, Fish parle pour lui-même. C'est vraiment talentueux. Derrick James, je suis pas sûr. Flavor of the month, peut-être.
Je pense que Derrick James, c'est aussi une décision par rapport. Tu sais, Joshua, il veut pas aller aux États-Unis aussi longtemps. Puis des gars comme Derrick James, ils ont plein d'autres boxeurs aux États-Unis. Ils peuvent pas se permettre d'aller en Angleterre juste pour Joshua pendant des semaines et des semaines de temps. Donc, moi, je pense que cette décision-là, c'est une décision logistique plus que rien d'autre. Parce qu'il avait dit qu'il va continuer à travailler avec Derrick James dans le futur. Puis par rapport à McCracken, c'est son entraîneur qui l'a amené au niveau de championnat. Là, il voulait un changement parce qu'il fallait qu'il blâme quelqu'un après une coupe de défaite. Ça fait partie de la game. Et là, après, par rapport à le nom de
Garcia,
qui m'échappe.
Garcia.
Garcia, c'était juste pas un mix, je pense, par rapport à Garcia aime des gars qui veulent se battre. Donc, quand on regarde souvent les boxeurs qu'il a représentés.
Puis il n'y a pas beaucoup d'expérience avec des poids lourds non plus. En tout cas, ça va être intéressant de voir. Moi, qu'est-ce que je trouve un peu triste, puis j'ai fait des entrevues sur TNT hier, puis les gars ils m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de Joshua, puis j'ai dit, vous autres, les journalistes, vous devrez avoir honte de comment vous avez traité Anthony Joshua. C'est quelqu'un qui a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques, deux fois champion du monde. Il est le boxeur sans doute le plus populaire de loin en Royaume-Uni. Il peut pas aller nulle part sans se faire connaître. Il est poli, il parle à du monde, il est gentil, il est souriant, il parle jamais mal de personne ou il part jamais en parler mal de quelqu'un. Si quelqu'un parle de lui, ben là, il va répliquer.
Mais ouais, c'est à part la fois quand il a perdu contre Usyk puis il a perdu un peu la tête au micro, là.
Oui, il a perdu la tête au micro. Mais il a pas parlé en mal, il a juste pris la parole sans permission, si tu veux.
Ouais, mais tu sais, parce que je comprends ce que tu veux dire, Russ, mais c'est aussi, ça fait partie de, surtout les tabloïds britanniques. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que les médias québécois sont sévères envers les Canadiens. C'est parce qu'il y a d'autres endroits à travers le monde que c'est encore pire.
C'est rien, man. Bon. Le British Press, il est vraiment difficile, là. Tu sais, pis pas juste dans le sport. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait à Princess Diana, là. Tu sais, c'est...
Ça va dans un autre débat.
Non, là, mais je veux dire, les comme tu dis, les tabloïds britanniques, ça, c'est un autre métier, là, man. C'est une autre façon de penser. Mais, tu sais, le fait qu'il avait perdu contre Usyk, qu'est-ce que j'ai dit en honte, c'est que vous l'avez traité comme un gars qui était favori à 9 contre 1, puis il a perdu. C'est comme ça, vous étiez tellement déçu. J'ai dit, hey, le premier combat, après 8 rondes, le combat était even.
Ouais.
Tu sais, c'était pas, il s'est pas fait déclasser, puis il était pas favori à 9 contre 1, puis il a perdu. C'était un combat difficile contre un des meilleurs boxeurs sur la planète à ce moment.
Et oui.
Ouais, Russ, t'as raison. OK, j'ai raison.
Je peux pas argumenter, Russ, là-dessus. Donc, juste terminer le balado de 2023 en remerciant les partisans encore une fois. Il nous reste quelques sujets. La question, puis après ça, on va te laisser aller dormir, Cyrus, parce que je sais que t'es pas aussi fort que d'habitude quand t'es au Québec par rapport à ton nightlife.
Ben, que tout est cédulé mauvais, man. On s'en va à les conférences de presse puis les media workouts. On part d'ici à 5h30. On revient à 10h le soir. Là, j'ai pas le temps. Ben, on va manger puis là, je suis de retour. Je veux travailler avec vous autres. J'ai pas le temps de travailler. J'aurais pu commencer à travailler plus de bonne heure pour aller prendre un petit sieste puis aller aux salles de billard. Là, je peux pas. Ma carrière de billard est en ruine à ce moment-là, man.
Terrible. Ouais, non, ça va pas bien pour la salle de billard cette semaine. Ça, c'est certain. Juste quelques, par rapport au reste de la carte. On a parlé de Makhmoudov, on a parlé de Joshua Wallin et Parker Wilder, mais juste pour les preneurs au livre britannique, quand on regarde Bivol, favori à 13 contre 1 face à Linton Arthur, c'est le plus gros favori de la carte, à part Philippe Orgovitch, qui est favori à 19 pour 1 face à Mark DeMory, le bodybuilder. Frank Sanchez, Junior Fa, Frank Sanchez, favori 11 pour 1. Makhmoudov est favori à 7 pour 1. Dubois, Miller, c'est le combat le plus serré, selon les preneurs au livre. Miller est négligé à 3 pour 1. Et ça, Miller, c'est le gars qui devrait même pas être sur la carte. Russ, on s'entend là-dessus, hein, ton préféré.
Écoute, c'est dommage parce que il est drôle, là, tu sais. C'est excitant d'être parmi lui. Tu sais, il parle beaucoup à des gens. C'est un extroverte. Tu sais, mais si on veut être sérieux avec le dopage dans la boxe, quelqu'un qui s'est fait pogner deux fois, puis encore, il y a de l'opportunité de faire l'argent qu'il fait. C'est quelle sorte de message que ça envoie, ça, à des gens? Comment il s'appelle? Frank Warren, tu sais, il a fait son speech hier de dire, écoute, il a commis son crime, il a fait son temps, tu sais, on l'a puni, puis là, il est de retour, puis on devrait tout oublier ça. Moi, ça s'oublie pas si facilement que ça. Pour moi, ça s'oublie pas si facilement que ça. Fait que, en tout cas, on va voir.
Pour la suite des choses. S'il va y avoir des surprises comme Frank Warren pense pendant la carte du jour du jugement, bonne façon de commencer le week-end de Noël avec une carte de combat qui commence vers 11h30 du matin à Montréal, si j'ai bien compris. Donc, on a pour une bonne après-midi de boxe le 23.
As-tu écouté la réponse de Anthony Joshua quand ils l'ont demandé s'il était intéressé à faire face à Jermell Miller?
Je pense qu'il a dit qu'il n'allait jamais affronter Miller, non?
Ouais, puis ils ont dit pourquoi. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il a répondu?
Non, monsieur, j'ai hâte de t'entendre.
Il a dit parce que c'est un drug cheat, c'est un tricheur de drogue. Puis là, il y avait une petite pause, puis son timing était parfait. Il dit, Miller devrait affronter Dillian White.
C'est vrai, les deux tricheurs ensemble.
Ben oui, les deux tricheurs ensemble, exact.
Pour ce qui est, Russ, de la question de le partisan que j'ai retenu, et merci de nous envoyer des questions au adresse courriel que j'ai oublié ici, mais qui vient de revenir, le dernier round box en commercial gmail.com. Tant si longtemps que M. Hanbury est banni de Twitter, nous allons continuer avec cette adresse courriel. On a eu quelques-unes, mais celle que je vais aborder, Russ, en terminant le balado, c'est une analyse de M. Stéphane et Stéphane Bass. Donc, c'est pas Stéphane Larouche, parce que le combat Bouté-Frotch est le sujet du courriel, pardon, et je ne sais pas si tu te souviens assez du combat, sinon, Russ, on le regardera puis on répondra en détail au mois de janvier. Mais M. Stéphane Bass trouve que Carl Froch, à ce jour, a triché face à Lucien Bouté. Te souviens-tu de l'épisode des gants? Froch avait décidé de changer ses gants en dernière minute. Aucun membre de l'équipe Bouté avait pu surveiller les bandages de Carl Froch. Pendant le combat, Froch a expliqué qu'il avait un problème avec ses gants. Après le combat, il a refusé d'enlever ses gants. Et on pense même, selon Stéphane, que l'épisode de Carl Froch et John Bouté avait laissé un goût amer par rapport à l'utilisation des gants de Carl Froch, comme que Deontay Wilder, à ce jour, accuse Tyson Fury par rapport aux gants de Fury face à Wilder.
Et Dillian White a fait la même chose avec Oscar Rivas.
Mais te souviens-tu assez de le combat Froch-Bouté pour les images que M. Stéphane Bass rappelle, ou faudrait que tu réécoutes?
J'aimerais répondre à... Moi, je n'étais pas vraiment au courant de le changement de gants.
Ça, je n'étais pas. Tu n'étais pas sur place, c'était à Montréal.
Non, j'étais en Angleterre.
Pour vrai? Bah, toi, ça, j'oublie celle-là. Tu étais en Angleterre pour qui?
Je faisais la description à télévision.
Dans ce temps-là, il faisait voyager le monde jusqu'en Angleterre?
Oui.
Ah ben oui.
J'ai fait ta description. Donc, je ne me souviens pas. Ça se peut que c'est arrivé, je dis pas non. Mais je souviens pas de le fait de changer les gants. Par contre, après le combat, pour donner crédibilité à le propos comme quoi qu'il y a eu quelque chose avec les gants, ils ont pointé à le fait que Froch a pas enlevé ses gants.
Oui.
Après mes années d'expérience en Angleterre, les boxeurs, c'est même rare qu'ils enlèvent leurs gants après un combat. Ils font les entrevues, ils ont encore les gants dans les mains. Ils les enlèvent pas.
Tandis qu'ici, au Québec, écoute, pour le nombre de fois que je suis dans le coin, la régie veut que tu enlèves les gants au PC dès que le combat finit. Puis toi, des fois, tu leur dis, hey, relax.
Ben,
pour enlever les gants plus tard.
Puis même à d'autres commissions athlétiques, ils veulent les enlever. OK, mais relax, pourquoi qu'on veut les enlever? Peut-être on veut prendre des photos avec. Ouais. On veut pas les enlever. Puis pourtant, c'est le plus sécuritaire parce que il est tapé, il est sur la main, il n'y a pas de tricherie à faire. Tu peux ouvrir le gant, enlève ça pour, avec un inspecteur pour assurer qu'il n'y avait pas de trichage. Fait que je suis pas nécessairement contre ça. Si la commission britannique a fait ça, ça me surprendrait, mais c'est normal que les boxeurs britanniques n'enlèvent pas leurs gants. Puis vous avez juste besoin d'aller voir d'autres combats en Grande-Bretagne. Les boxeurs, surtout ceux qui sont de Grande-Bretagne, ils gardent leurs gants, puis ils s'assoient, ils font leurs entrevues, ils ont encore les gants, ils prennent des photos, ils ont encore les gants, puis ils enlèvent les gants dans le vestiaire. Fait que pour moi, ça, ce n'était pas une preuve qu'il y avait quelque chose, mais c'est une des rares fois que j'entends dire qu'il y avait triché.
C'est pas la première fois que j'ai entendu cette spéculation, mais tu sais, dans le boxe, on a tellement l'histoire de Wilder Fury. Tant si longtemps qu'il n'y a pas de preuve nulle part, je comprends peut-être aussi qu'il y a un côté partisanerie de Québec, mais je pense que tu peux pas faire des accusations sans plus de preuves que ça, mais je me souvenais pas, c'était une bonne question quand même de Stéphane de rappeler l'événement par rapport au fait maintenant que tu es en Angleterre, que j'avais oublié Russ pour ce gars-là. Moi, je me souviens juste de quand tu étais revenu la semaine, quelques jours après le combat, tu as eu une entrevue avec Tony Marinaro, qui est maintenant un collègue de Jean-Charles, que je pense que c'était la dernière fois que tu étais sur l'émission de Tony par rapport à la défaite de Boutet face à Carl Froch.
Ben oui, parce que tu sais, je pense le vendredi. Il était pour Boutet, puis ah ouais, il va gagner, puis tout d'un coup, il se fait battre, puis il a changé le fusil d'épaule, puis ah, je le savais, il était pas bon, il va perdre, Froch était meilleur, blablabla. Hey, tabarnak, là, 24 heures, t'étais pour lui, puis maintenant, tu pars contre lui. Ça, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais digéré ça.
Russ, par contre, j'espère que tu gères la bouffe à Riyad. As-tu fait changer le menu cette fois-ci, ou non, le menu est correct?
Le menu est correct, très bien. Je pense.
C'est le sommeil le problème cette fois-ci.
Ben sommeil, oui. Mais surtout cédule. Le cédule, il est vraiment. Puis c'est loin. À toutes les fois, faut aller au site qui est à peu près à 20, dépendamment le trafic, 20 à 30 minutes d'ici aller, 20 à 30 minutes le retour. Puis tout commence en retard. Ils sont tous en retard dans tout. Qu'est-ce qu'ils font? Fait que c'est. C'est un peu difficile, je te le dis. Puis quand on revient, il faut manger, sinon ils ferment la cuisine, ils ferment le resto. Donc, faut manger tout de suite. Puis après ça, j'arrive ici pour vous jaser. Puis regarde, il est 1h du matin.
Donc, Russ...
Je n'ai nulle part, sauf que la conférence de presse, manger, puis venez te jaser. Il est 1h du matin.
Pas de salle de billard, malheureusement, cette fois-ci, M. Amber. On souhaite la meilleure des chances dans le combat avec Makhmoudov samedi, qui est disponible sur DAZN Pay-Per-View. Et par rapport au message, est-ce que tu as un message du temps des fêtes à nos auditeurs, Russ?
Ben oui, mais tu n'avais pas besoin de me rappeler que tu as un message pour les temps des fêtes. Je voulais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, puis écrivez à Twitter, puis demandez pourquoi commence une pétition, pourquoi tu es là s'il n'est plus sur Twitter. Si Trump peut être de retour, puis Alex Jones peut être de retour, Tiras peut être de retour aussi.
On le souhaite, 2024, Tiras de retour sur Twitter/X. Merci tout le monde à l'écoute, joyeux temps des fêtes et on se retrouve pour la première semaine du mois de janvier et on écoute le gala de samedi, Day of Reckoning, le jour du jugement.
Joyeux Noël à tout le monde, puis un spécial Noël, un spécial souhait pour la nouvelle année à Martine Vallière-Bisson, qui lutte contre le cancer, puis qui nous écoute à toutes nos podcasts, elle les écoute, puis elle m'écrit tout le temps quand elle écoute. Donc, une très joyeuse Noël. Elle a passé une année difficile, mais à du cœur.
On pense à toi, Martine. Hâte de revoir dans le ring en 2024. Au revoir, Monsieur Amber.
Monsieur Cassavant, joyeux Noël, mon ami.
Oh, oh, oh.